Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Après VibraSOS tous les samedis, vous retrouvez entre 12h et 13h Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau samedi d'information scientifique, technique et médicale sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur graphite.net, bien sûr pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé, ou sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Graphite vous propose tous les samedis entre 12h et 13h de feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique pour se tenir informé un petit peu de ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier, pour essayer de comprendre un petit peu notre monde, notre société. Les informations que nous apprenons aujourd'hui vont toucher notre quotidien dans un avenir plus ou moins proche. On verra tout cela, bien sûr, dans cette émission. Je voudrais juste démarrer cette émission en vous donnant deux informations, deux rendez-vous qui vont nous concerner. Biotine spéciale Fête de la Science, une émission en direct de la manifestation de vulgarisation scientifique organisée par l'Université de Technologie de Compiègne. Notez bien la date, c'est le 12 octobre prochain, samedi 12 octobre, et on se retrouvera précisément de 14h à 16h. Deux heures d'émission en direct avec Peggy pour vous présenter un petit peu le programme très complet de cette fête de la science, comme tous les ans. D'ailleurs, c'est une émission qui devient un incontournable de la saison de Biotine sur l'antenne de Graphite. Autre rendez-vous que je n'ai pas encore évoqué, mais il va falloir maintenant que je commence quand même à vous parler de la foire aux disques et aux bandes dessinées organisées par Graphite. Et nous en sommes déjà à la 8e édition. Ce sera le dimanche 20 octobre. Toute la journée au centre de rencontre de la Victoire à Compiègne. Donc voilà, venez rencontrer Graphite et participer à cette bourse au disque et au BD. Centre de rencontre de la Victoire à Compiègne, toute la journée du dimanche 20 octobre. Voilà, donc deux rendez-vous importants. Samedi 12, Fête de la Science sur l'antenne de Graphite en direct. Et dimanche 20 octobre, bourse au disque et au BD au centre de rencontre de la Victoire. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 28 septembre, journée mondiale de la rage, célébrée le jour donc de la mort de Louis Pasteur, et on a donc consacré le 28 septembre pour cette journée internationale de la rage. Au niveau sciences et techniques pour l'éphéméride, en 2015, le 28 septembre 2015, un lanceur met en orbite AstroSat, le premier observatoire astronomique spatial indien. Tiens, c'était il y a 4 ans. On sait, si vous êtes fidèle de cette émission, je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines, nous avions évoqué il y a 2 semaines le raté de l'Inde en ce qui concerne l'atterrissage sur la Lune. Mais voilà, c'était déjà il y a 4 ans commencer à pouvoir se lancer dans la conquête spatiale. Et il y a 4 ans, et on en avait parlé dans cette émission, le 28 septembre 2015, la NASA affirme l'existence d'eau sur Mars. C'était il y a 4 ans et ça avait fait beaucoup parler, on s'en souvient. Au niveau de l'éphéméride, eh bien, nous allons commémorer la naissance le 28 septembre 1860 de Paul Villard. Il est né à Saint-Germain-au-Mont-d'Or dans le Rhône. Il découvre en 1900 un rayonnement provenant du radium, à la fois capable de traverser une fine plaque de plomb et totalement insensible au champ magnétique. Il découvre ainsi la troisième composante de la radioactivité, c'est le rayonnement gamma. Paul Villard, élu membre de l'Académie des sciences en 1908. Il propose d'ailleurs, à partir de cette année, de quantifier les radiations en mesurant l'ionisation dans l'air. La définition qu'il propose est presque mot pour mot celle qui sera finalement adoptée 20 ans plus tard pour le Röntgen, donc ça date déjà de 1908. Il a également étudié les propriétés des rayons cathodiques. Paul Villard, né donc un 28 septembre 1860, mort à Bayonne le 13 janvier 1934, physicien chimiste français. Et au niveau de l'éphéméride et au niveau des décès, je vous évoquais donc le fait que nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la rage. Eh bien, il est mort un 28 septembre 1895, Louis Pasteur, scientifique français, chimiste, physicien de formation, pionnier de la microbiologie. Il a connu même de son vivant une grande notoriété pour avoir mis au point donc un vaccin contre la rage. La découverte donc de ce vaccin vaudra à Pasteur sa consécration dans le monde. Il recevra de nombreuses distinctions. L'Académie des sciences propose la création d'un établissement destiné à traiter la rage. C'est bien sûr l'Institut Pasteur qui naît en 1888. Et en 1892, la Troisième République lui organise un jubilé triomphal pour son 70e anniversaire. Donc il a eu une vraie célébrité. Une vraie notoriété de son vivant, Louis Pasteur. Il meurt le 28 septembre 1895 à Villeneuve-l'Étang, dans l'annexe de l'Institut Pasteur. Il a eu des obsèques nationales et son corps préalablement embaumé a été déposé dans l'un des caveaux de Notre-Dame, puis a été transféré dans une crypte de l'Institut Pasteur. Voilà, Louis Pasteur, grand scientifique bien sûr français, décédé un 28 septembre. C'était important donc de pouvoir commémorer sa mémoire aujourd'hui. L'année 2019, revenons aujourd'hui, c'est l'année internationale du tableau périodique des éléments de Mendeleïev, ce fameux tableau des éléments chimiques que l'on trouvait dans nos salles de classe, tableau complexe, et on remplit depuis le début de l'année une case. Alors là, on va parler du phosphore. L'utilisation principale du phosphore reste bien sûr les engrais phosphatés. Ils ont permis d'éviter les périodes de famine liées à la carence en phosphore des sols. Les os également du corps humain sont très riches en phosphore. Avant l'invention des engrais synthétiques, eh bien la poudre d'os était utilisée pour fertiliser les sols. On utilise surtout le phosphore sous forme d'ion phosphate qui est essentiel à la vie. Manger 100 g de poisson apporte environ 150 mg de phosphore et c'est important. Il a été découvert en 1669, il y a quand même déjà longtemps, par Henning Brandt qui va chauffer, alors quelle idée, il va chauffer sa propre urine. Il va condenser les vapeurs qui se dégageaient du résidu. Il obtient une poudre blanche et au contact de l'air, il explose. Elle explose cette poudre avec des flammes d'un blanc totalement éblouissant qui va donner le nom de phosphorus, du grec phos qui signifie lumière et phoros qui signifie porter quelque chose, donc porter la lumière, d'où le nom de phosphore, qui est ensuite largement utilisé dans les bombes incendiaires, dans les balles traçantes, et puis plus tard il sera utilisé comme arme chimique, notamment comme neurotoxique dans le traitement du célèbre gaz sarin. Voilà, le phosphore, avec des applications importantes, mais parfois aussi un peu douteuses. Symbole chimique, le P, et c'était la case numéro 15 qu'on a remplie tous ensemble. Dans ce tableau périodique des éléments de Mendeleïev, Biotine, tous les samedis entre 12h et 13h, vous propose également, grâce à Anne Fleur, de voyager un petit peu dans le monde. On choisit une ville, un pays, et elle nous propose, elle nous évoque les inventions qui ont été créées dans cette ville ou dans ce pays. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est un pays du Maghreb. On partira au Maroc dans cette émission. Également, c'est Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h. Biotine est aussi une émission musicale parce que ça se marie très très bien avec la science, bien sûr. On écoute donc un titre et on se retrouve juste après. On va commencer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. A tout de suite. Alors, du coup, je me suis fait piéger. Je ne pensais pas que c'était tellement sympa en plus. C'était Love de Dusk Totem, pardon, sur l'antenne de Graphite. Mais oui, mais j'étais bien. Je relisais un petit peu les différents articles que je l'évoquais dans cette émission avec ce fond sonore très sympa. Et du coup, je me suis fait piéger. Alors, j'étais en train justement de voir cet article concernant la NASA, qui, en fait, et c'est intéressant pour idée. On en parle déjà depuis un bon bout de temps d'aller sur Mars. Et en fait, je ne vous emmène pas sur Mars, mais je vous emmène sur au niveau du pied du Langjökull. C'est un grand glacier et nous sommes en Islande, sur une île. Eh bien, pendant 3 semaines au mois de juillet cet été, cette zone était le terrain de jeu d'une quinzaine de scientifiques et ingénieurs envoyés par la NASA. Cette île volcanique perdue au milieu de l'Atlantique Nord a quelque chose en elle, en fait, de martien, parce qu'elle a un sable noir de basalte, elle a des dunes façonnées par le vent, elle a aussi des roches noires, elle a des sommets avec des montagnes également assez importants, et nous obtenons exactement le type de motif et de transport de matériaux que les scientifiques souhaitent voir. C'est ce que souligne sur place Adam Deslauriers, responsable espace et instruction pour une société canadienne qui a été mandatée par la NASA pour tester un prototype, j'allais dire d'automobile, on va dire plutôt d'astromobile dans ces cas-là. Ce rover, fondamentalement indestructible, ce que nous avons sur Mars et la Lune serait beaucoup plus sensible à l'environnement aux conditions de l'Islande, parce que ce rover lunaire n'est absolument pas préparé à la pluie, parce qu'il pleut en fait sur cette île d'Islande, ça donne des complications supplémentaires. Ce rover est équipé de capteurs 3D, d'ordinateurs, de caméras, d'instruments scientifiques. Il pèse 570 kg et il peut être piloté à distance ou à l'aide d'une télécommande. Il se déplace à 20 cm par seconde, ce qui est quand même pas mal. C'est uniquement pour des raisons de sécurité, car il faut beaucoup de temps pour que les images reviennent d'une autre planète. C'est ce qu'explique justement Adam Deslauriers. Le robot recueille, classifie les données de son environnement grâce à l'imagerie. Je vous ai dit qu'il était quand même équipé de capteurs, de caméras et ainsi de suite. Et il envoie aux ingénieurs toutes ces données, les ingénieurs qui vont travailler justement, transmettre un petit peu toutes les informations. Le tout, c'est de simuler la manière dont les renseignements seraient envoyés de Mars vers la Terre. Les chercheurs rejoignent ensuite à pied la zone étudiée par ce petit rover et ils vont essayer de l'équiper de certains dispositifs qui ne sont pas encore prévus. L'idée, en fait, c'est que, bien sûr, quand on va envoyer ça sur Mars, ils se débrouillent tout seuls. Là, ce n'est pas encore le cas, donc on va un petit peu l'aider pour essayer de récupérer des échantillons. Ça ne sera pas le cas sur Mars. Et on est donc en train de travailler sur cette île volcanique d'Islande, parce que c'est un petit peu des conditions similaires à ce qu'il peut y avoir sur Mars, sauf la température, parce qu'on nous rappelle quand même que Mars est actuellement avec une température moyenne de moins 63 degrés Celsius. Donc effectivement, pour l'instant, sur cette île volcanique d'Islande, ça n'est pas le cas. Mais on a également, sur cette île, accueilli, il y a déjà pas mal d'années, dans les années 1965, des astronautes des missions Apollo, justement pour avoir une formation grandeur nature à la géologie sur cette île volcanique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir préparer ce départ pour Mars. Le lancement de la mission Mars 2020 par la NASA est prévu l'année prochaine, entre juillet et août 2020. On essaiera bien sûr de suivre cela, bien sûr. Mais voilà, c'est intéressant parce qu'ils préparent en Islande ce qui va se passer sur Mars l'année prochaine. C'est assez intéressant. Vous pouvez voir quelques images justement de ces différents travaux de recherche et aussi ce matériel qui est utilisé sur Mars pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez trouver ça sur différents sites internet d'informations scientifiques. Futura Science, par exemple, vous permet d'avoir un petit peu plus d'idées précises de ce qui est proposé sur Mars, ou en tout cas en Islande. Comme ça, c'est un petit peu plus proche et peut-être plus accessible pour nous. Ça, c'était le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est ce qu'évoque, et ça a été assez relayé par différents médias, le GIEC, le groupe international d'experts sur l'évolution du climat. Cela fait des décennies que nous connaissons l'impact négatif de notre consommation assez importante de viande sur les émissions de gaz à effet de serre et donc sur le dérèglement climatique. Cela fait également plusieurs années que les scientifiques nous appellent à revoir la place des animaux au sein de notre régime alimentaire, tant pour notre santé que pour celle du futur de la civilisation humaine. Et parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et plusieurs médias ont repris cette information en imputant au rapport du GIEC de conseiller un régime végétarien pour toute l'humanité. Eh bien, c'est pas le cas. Et cet article que l'on trouve notamment sur Science et Vie revient un petit peu sur ce que préconise le GIEC, parce qu'on lui a fait dire un petit peu tout et n'importe quoi. Déjà, le GIEC ne conseille rien au départ. Il donne quelques préconisations et on peut lire le rapport du GIEC, parce qu'après tout, il faut aller à la source. Ils ne disent pas qu'il faut être végétarien. Ils expliquent que la diversification du système alimentaire peut réduire les risques liés au changement climatique. Des régimes équilibrés, majoritairement végétal, pas unanimement, mais majoritairement végétal, à base de céréales, légumineuses, fruits, légumes, noix et graines, en y intégrant une part raisonnable d'aliments d'origine animale. Produits dans le cadre de systèmes durables et à faible émission de gaz à effet de serre, tout ça offre des opportunités majeures d'adaptation et d'atténuation, tout en générant d'importants avantages, notamment en termes de santé humaine. Il est également précisé qu'il faut tenir compte de l'environnement culturel et économique d'un pays et surtout de sa consommation de viande initiale. On ne va pas demander à un pays de réduire sa consommation de viande si celle-ci est déjà faible. Enfin, il est bien sûr suggéré aux politiques d'induire ces changements progressivement en les basant sur le volontariat. Il n'est pas question de dicter aux gens ce qu'ils doivent manger. C'est ce que rappelle Hans Otto Pantner, qui est le coprésident du GIEC. Et c'est intéressant un petit peu d'avoir ce rappel à l'ordre quelque part, parce que il y a quelques semaines, on disait tout et n'importe quoi à partir de ce rapport du GIEC. Donc l'idée, c'est que on devrait manger moins de viande parce que ça permet d'avoir, au niveau de répercussions climatiques, des effets bénéfiques et au niveau de la santé également. Donc c'est voilà, une petite précision importante que nous devions évoquer dans cette émission. Bien sûr, c'était totalement indispensable. On va, comme je vous avais dit tout à l'heure, partir au Maroc avec Anne Fleur. Anne Fleur qui a donc choisi ce pays aujourd'hui pour évoquer précisément les inventions qui ont été créées au Maroc. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été créées au Maroc. Bonjour Anne Fleur, c'est à toi.
Good morning Biotineur et Biotineuse, salut Jean-Noël et bonjour à tous. Ça y est, c'est l'automne, les feuilles changent de couleur et ce magnifique rouge-orangé envahit nos forêts pour le plus grand plaisir de nos yeux, en tout cas des miens. Alors l'automne c'est beau, mais les températures commencent aussi à diminuer et ça fait un petit peu mal quand même de se dire que l'été c'est bel et bien terminé. Alors aujourd'hui, pour vous réchauffer, sans avoir à passer par la tisane ni le chocolat chaud, je vous amène en voyage et c'est direction le Maroc que nous allons prendre ce midi. Alors fermez les yeux un instant avec moi. Si je vous dis Maroc, vous pensez déjà au soleil qui réchauffe votre peau, aux épices chaudes qui envahissent vos narines et à cette musique si magique à l'oreille. Eh bien aujourd'hui, les clichés vont avoir la vie dure puisque exit le pays des vacances que nous pensons connaître pour certains. Et direction le Maroc, le pays des inventions qui ont, elles aussi, changé notre quotidien. C'est parti. Alors la première invention dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui m'aurait personnellement sacrément aidé pendant mes soutenances de stage ou de fin d'études. C'est à Mostafa El Mohadeb, désolé pour la prononciation comme d'habitude, que l'on doit l'invention du stylo infrarouge. Ce stylo à tantinet magique en fait permet de voir, de feuilleter, de corriger et même de rembobiner un PowerPoint pendant une projection. Celui-ci permet également de collaborer en temps réel sur un tableau, avec une personne directement en face de soi ou à distance. Alors vous vous rappelez toutes ces présentations de projets réalisées en groupe, je pense notamment à l'UTC, ça nous aurait quand même sacrément dépanné. La seconde invention dont je vais vous parler, c'est le solardo. Parlons soleil un petit peu. Le Solar Daylighting Optical Fiber System, ou Solardo, est un système d'éclairage naturel à base de panneaux solaires qui utilise une fibre optique assez singulière. En fait, les rayons du soleil y sont captés et concentrés au niveau du point focal d'une parabole équipée de petits miroirs. Les rayons du soleil sont ensuite concentrés sous forme d'ondes qui sont visibles et diffusées dans toutes les pièces grâce à un faisceau de fibres optiques, donc utilisant un procédé de triple filtration. infrarouge et ultraviolet. La parabole, elle est motorisée pour pouvoir suivre la course du soleil, et c'est à une femme que l'on doit cette invention, Leila Setki. Elle a été d'ailleurs très très récompensée pour celle-ci, puisqu'elle a obtenu la médaille d'or du Salon mondial Bixpo, dans l'une des catégories concourues, le prix spécial de l'Association égyptienne pour les femmes et les jeunes, et ainsi que la médaille d'or dans la catégorie énergie alternative lors du Salon INPEX, pardon, qui est le Salon international des inventions, qui est tenu aux États-Unis. Alors bravo Leila. La troisième invention dont je vais vous parler, c'est la puce qui recharge les batteries. Alors si je vous dis batterie, vous pensez à quoi? Moi personnellement, je pense à absolument toutes les batteries que je dois sans cesse recharger. Mon téléphone, ma montre, ma brosse à dents. Et là arrive Rachid Yazami et sa puce extraordinaire qui permet de recharger les batteries des téléphones et des voitures, certes, mais en seulement 10 minutes. Outre cette performance, cette puce qui est déjà hyper performante, comme je le disais, est aussi très très sécurisée, puisqu'en fait elle est capable de nous signaler une batterie défaillante, voire même une batterie qui est sur le point de prendre feu. Alors merci à monsieur Yazami. La quatrième invention dont je vais vous parler, on la doit à un certain Mehdi Berada. Ce monsieur donc a mis au point un prototype de désalinisateur solaire qui a pour objectif de produire 5 à 10 litres d'eau potable par jour en utilisant exclusivement de l'énergie solaire. Alors l'idée en fait c'est de pouvoir mettre à disposition ce désalinisateur solaire pour certaines populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Alors là, le prospect en fait que ça puisse être possible, c'est tout simplement fantastique. De plus il s'agit d'un système qui est relativement simple, qui n'a pas de pièces mécaniques, donc je dis affaire à suivre et j'espère vraiment que ça se concrétisera. Et la cinquième et dernière invention dont je vais vous parler, elle a été récompensée il y a quelques mois, en mars, au salon Archimède des inventeurs et des innovateurs qui viennent un peu des quatre coins du monde et qui se tenait au mois de mars, je le disais donc, à Moscou en Russie. Et là, en fait, nous allons discuter de Smart Traffic qui a remporté l'innovation gagnante de la médaille d'or. Il s'agit en fait d'un système décentralisé qui est basé sur l'identification par radiofréquence et le traitement des images capable de gérer le trafic urbain de façon optimale. Ça veut dire quoi? Un exemple concret, il va être capable d'identifier les véhicules d'urgence, les pompiers, les ambulances, le SAMU, la police, et par exemple donc de contrôler les feux tricolores. Ça peut être sacrément intéressant comme invention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si je vous parle de Maroc, exit la place Jemaa el Fna, parlons un petit peu de science avec le stylo infrarouge, le Solar Do, la puce rechargeuse de batterie en 10 minutes à tout casser, le désalinisateur solaire pour les populations qui n'ont pas accès à l'eau potable, et Smart Traffic qui va changer la manière dont nous circulons en ville. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine, en commençant par un excellent dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.
Merci Anne-Fleur. J'ai un peu l'impression que tu n'étais pas seule, on entendait quelqu'un derrière, un autre auditeur de graphite, je pense. Voilà, c'était le Maroc et on retrouve Anne-Fleur la semaine prochaine. On va rester, je pense, en Afrique du Nord, à mon avis. On verra ça la semaine prochaine dans l'émission de Biotine sur l'antenne de graphite. Il y a eu, parfois on parle de choses assez sérieuses et puis parfois aussi de choses légères, parce que la science parfois est légère. Le 26 août dernier, c'était la journée mondiale du chien. Alors, vous le saviez pas, je vous le dis, pensez-y l'année prochaine. Et il y a une étude tchèque. On ne parle pas souvent de la République tchèque dans cette émission. Et bien là, une étude tchèque enquête une fois de plus sur le lien entre le fait d'avoir un chien et les risques cardiovasculaires. L'idée, c'est de récolter toutes ces données qui auront pour but d'identifier les facteurs de risque et les facteurs protecteurs pour la santé cardiovasculaire. Alors, attention, on vous le dit souvent, hein, une simple corrélation statistique, ça ne veut pas dire qu'il existe une relation de cause à effet entre deux variables, parce qu'il y a des facteurs annexes également qui peuvent se cacher parmi les paramètres qui, notamment, protègent le cœur dans le cas des maladies cardiovasculaires. Mais bon, en tout cas, dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont recruté presque 1800 personnes qui n'avaient pas d'antécédents cardiovasculaires. Et on a donc identifié aussi les facteurs de risque potentiels qu'ils pouvaient avoir. D'autres informations ont été relevées, hein, leur alimentation, l'activité physique, le fait qu'il fumait du tabac ou pas, la pression artérielle, les marqueurs sanguins comme la glycémie ou le taux de cholestérol. Eh bien, on a analysé tout ça et on s'est rendu compte, parce qu'on leur a demandé s'ils avaient un chien également, on s'est rendu compte que le fait d'avoir un chien était bel et bien associé à un risque réduit de maladies cardiovasculaires. Et oui, encore une fois, il y a encore une étude qui nous confirme cela, qu'il y a un lien entre le fait d'avoir un chien et d'être moins exposé au risque de maladies cardiovasculaires. Alors, pourquoi ? Et à partir de là, on n'en sait toujours rien, en fait. On fait des suppositions. L'une des idées que l'on a, c'est qu'on considère que le chien pourrait nous pousser à être un petit peu plus actif et être un petit peu plus engagé physiquement, ce qui peut bien sûr ne faire que du bien à notre cœur. La santé mentale semble aussi jouer un rôle significatif, étant donné que la sensation de solitude est moindre avec un chien à la maison que si on vit seul, notamment. Les résultats de l'étude appuient l'idée selon laquelle les personnes pourraient adopter, sauver ou acheter un animal de compagnie comme stratégie potentielle d'amélioration de leur santé cardiovasculaire, à condition que le fait d'avoir un chien les conduise à avoir un mode de vie un peu plus actif. C'est ce que déclare Andrea Mogheri, qui est le principal auteur de cette étude. Bref, les bénéfices semblent réels et totalement indépendants de l'âge, du fait que vous soyez un homme ou une femme, ou du niveau d'éducation. Donc voilà, c'est statistique, ça n'est pas expliqué, mais ça reste statistique, je vais y arriver. Mais donc voilà, le fait d'avoir un chien réduirait les risques de maladies cardiovasculaires. C'est pas la première fois qu'on en parle dans cette émission, mais on se rend compte qu'en fait, il y a toujours encore des chercheurs qui veulent essayer de comprendre pourquoi. On saura peut-être un jour la réponse. Il paraît que ça fait du bien aussi d'écouter un peu de musique. Et bien sûr, l'antenne de Graphite, vous en avez même dans l'émission de Biotine. On se retrouve juste après.
I'm not afraid to die.
LB avec le titre Western Games sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé, avec la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts des émissions de Graphite bien sûr. Et ceux qui nous écoutent en direct sur la bande FM, je vous salue, je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table et vous avez très bien fait de positionner le curseur de votre radio sur le 94.9 sur la bande FM pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Graphite propose tous les samedis entre 12h et 13h une émission d'actualité scientifique qui s'appelle Biotine. Une émission spéciale est donc prévue samedi 12 octobre en direct de la Fête de la Science de l'Université de Technologie de Compiègne. Comme tous les ans, on propose une émission en direct de 2h entre 14 et 16h avec Peggy. Je vous retrouverai au cœur de cette manifestation de vulgarisation scientifique qui vous permet justement de pouvoir pénétrer à l'intérieur des bâtiments de l'Université Technologie de Compiègne et de l'ESCOM qui participe également, l'École supérieure de chimie organique et minérale. Et donc voilà, on rentre à l'intérieur des bâtiments et on va pouvoir rencontrer les chercheurs qui vous proposent des animations scientifiques adaptées à tous les publics, hein, même les plus jeunes, et c'est tout l'intérêt de cette manifestation. Un programme encore complet cette année et donc nous vous proposerons une émission spéciale en direct pour essayer de vous donner l'envie de venir participer à cette grande fête de la science. On parlera bien sûr de la fête de la science de Compiègne, mais c'est une manifestation nationale que vous retrouverez partout en France. Donc renseignez-vous, près de chez vous, vous avez vraisemblablement une association, une université, un musée qui propose bien sûr des activités pour tous les publics. C'est donc la fête de la science le 12 octobre. On va continuer cette émission de Biotine aujourd'hui et je me rends compte en fait que la thématique un petit peu, ou en tout cas le fil rouge de cette émission, va être la médecine, parce qu'il y a pas mal d'informations au niveau médical qui ont été un petit peu relayées par différents médias il y a quelques jours et quelques semaines. Donc voilà, je vous propose une émission spéciale sur cette thématique-là. On va notamment parler de la maladie d'Alzheimer. Chez l'être humain, les personnes dont la mère développe la maladie d'Alzheimer courent un risque accru de développer également la maladie. Or, jusqu'alors, aucun gène responsable d'une supposée transmission maternelle n'a pu être identifié. C'est le docteur Domenico Pratico de l'université de Temple aux États-Unis qui parle et qui explique pourquoi il s'intéresse au mode de vie et d'alimentation adopté pendant la gestation, une période spécifique durant bien sûr laquelle la mère et le bébé se trouvent en interaction étroite. Et donc, l'équipe de ce docteur a choisi de travailler sur des souris en proposant à des souris un régime riche en graisse du début à la fin de leur gestation. Et ensuite, quand les bébés souris sont nés, on a nourri de manière un peu plus équilibrée ces souris lors de la période de lactation. Et en fait, les tests ont montré que les souris présentaient une meilleure compétences d'apprentissage et de mémoire quand leur mère avait été un petit peu engraissée, si je peux dire, ou en tout cas qu'on leur avait proposé un régime assez gras pendant la grossesse, par rapport aux souris qui sont nées de mères qui ont été nourries d'une façon un peu plus équilibrée. Il y a une vraie différence. On se rend compte que quelque part, et c'est le titre de cet article de Futura Science, manger gras durant la grossesse protégerait les bébés de la maladie d'Alzheimer. En fait, en y regardant de plus près, les chercheurs ont découvert que la progéniture de ces mamans souris qui étaient exposées à un régime alimentaire assez riche en graisse, eh bien, cette progéniture présentait une amélioration significative de la fonction synaptique par rapport aux autres, donc une fonction nerveuse et d'activité cérébrale améliorée, en tout cas plus bénéfique, plus efficace. Et il y avait également un taux de protéines qui était réputé pour contribuer au dysfonctionnement des cellules nerveuses qui était amoindri. Donc il y a effectivement des vraies différences. Il semblerait donc, ça c'est la conclusion, et à partir de là on reste encore quand même dans le conditionnel, on fait une expérience, on analyse les résultats, enfin en tout cas on exploite les résultats d'une façon brute pour voir qu'est-ce que l'on obtient, et après on fait des suppositions. Donc là, on est dans le conditionnel. Il semblerait qu'un régime riche en graisse augmente l'activité d'une protéine qui, elle-même, a tendance à agir sur des gènes qui sont impliqués dans la maladie d'Alzheimer pour justement pouvoir réduire l'activité de ces gènes. Le résultat suggère donc que la prévention de la maladie doit être envisagée à un stade extrêmement précoce de la vie, tu m'étonnes, au moment de la gestation de ces souris. Et l'équipe donc du docteur Domenico Pratico envisage maintenant de mener le même type d'études sur des régimes riches en sucre ou en protéines, ou également sur le régime méditerranéen, pour essayer d'en savoir plus. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et d'une, qu'on continue encore, et dans cette émission, vous le savez, on en parle depuis maintenant plusieurs années, on continue d'étudier le cerveau. La maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson sont des sujets d'études de nombreux laboratoires du monde entier. Et toutes les semaines, dans cette émission, en général, on avance progressivement, mais sûrement, sur des pistes intéressantes au niveau de la recherche. Et donc, la deuxième information, c'est qu'on a une piste là qui semble un peu intéressante, qu'on va pouvoir exploiter encore plus et qui peut donner, voilà, aboutir à des thérapies totalement prometteuses au niveau de la maladie d'Alzheimer. Voilà, toutes les semaines, presque en général, c'est un fil rouge continu de parler de ces recherches sur le cerveau. Comme on parle de cerveau, superbe transition pour parler de travail sur le cerveau, mais aussi d'éthique, des questions d'éthique. C'est très souvent aussi un sujet qu'on évoque dans cette émission. Peut-on parler de conscience à propos de cerveaux qui ne sont pas fonctionnels? Les scientifiques pensent que les cerveaux ne sont pas conscients car ils ressemblent à ceux de bébés prématurés, mais ils ne peuvent pas le prouver. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que depuis une dizaine d'années, il y a des chercheurs qui ont réussi à exploiter ce qu'on appelle les cellules souches adultes pour développer des organoïdes. C'est-à-dire qu'en fait, on veut essayer de développer des structures cellulaires qui vont essayer de modéliser un organe qu'on souhaite étudier. Et là, on a voulu essayer de développer, avec ces cellules souches, essayer de développer un cerveau, ou en tout cas des organoïdes cérébraux. Et on avait pour l'instant jamais parvenu à développer un réseau neuronal actif. Eh bien, à l'AFP, il y a le biologiste de l'Université de Californie, elle s'appelle Allison Muotri. Elle dit que il y a 5 ans, il était totalement impossible de parvenir à un tel résultat. Eh bien, maintenant, c'est possible que cet organoïde cérébral, donc cette espèce de cerveau qu'on a développé à base de cellules souches, développe un réseau sophistiqué capable de générer des oscillations, parce qu'on a pu mesurer l'activité de ce cerveau. La percée a été permise en partie grâce à l'amélioration de la procédure et de l'environnement des cultures des cellules souches. C'est ce que je vous dis très souvent, d'un point de vue technique, on va y arriver. Après, d'un point de vue éthique, c'est tout à fait autre chose. Et donc, on a réussi à pouvoir développer des espèces de mini-cerveaux artificiels, quelque part, qui ont une activité électrique assez proche de celle des bébés prématurés. C'est le résultat de cette étude qui, scientifiquement, techniquement, est vraiment intéressante. Mais alors, ça pose de vraies questions parce qu'on est en train de développer un cerveau. Est-ce qu'il y a une conscience qui est associée, étant donné qu'on détecte une activité électrique? Quelle est cette conscience? Et toutes ces questions-là sont assez importante aussi à prendre en considération, et c'est un petit peu ce sujet qui est évoqué par le biais de cette étude, de ces travaux de recherche pour cette équipe de scientifiques qui ont travaillé notamment à l'Université de Californie. L'idée, bien sûr, c'est d'essayer de mieux comprendre le cerveau pour essayer de trouver un petit peu des modes de thérapie. J'évoquais tout à l'heure la maladie d'Alzheimer. Là, c'est également le cas. C'est-à-dire que si on arrive à comprendre un petit peu mieux le fonctionnement du cerveau, on pourra trouver, avoir une compréhension de certains développements de maladies pour ensuite trouver des solutions thérapeutiques. Mais voilà, je veux dire qu'on agit aussi en parallèle en faisant un petit peu des exercices d'apprenti sorcier en développant des mini-cerveaux artificiels. Et c'est toujours un petit peu sur la corde raide, on ne sait pas sur quel côté on doit pencher. Est-ce qu'on peut continuer ce genre d'expérience pour parvenir à des résultats importants et intéressants au détriment d'un... certaines questions éthiques qui se posent fondamentalement. C'est un vrai débat qui a été relancé par cette étude qui a été publiée dans la revue Cell Press, qui est une revue quand même assez importante dans le domaine de, des maladies, notamment des maladies neurodégénératives. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on se pose des questions en se disant « Oula, attention !» et on n'a jamais de réponse. Donc on continuera, en tout cas, enfin j'en suis certain que pendant encore plusieurs mois, plusieurs années, si cette émission se poursuit, nous continuerons à évoquer dans cette émission des travaux de recherche qui vont être techniquement, scientifiquement, médicalement important et bluffant, mais au détriment bien sûr de certaines questions d'ordre éthique qui sont pour l'instant encore mises de côté parce que la science va très très vite sur ces sujets-là. Il y a quelques années, on ne parvenait pas, et d'ailleurs cette scientifique explique clairement qu'il y a 5 ans, elle n'aurait jamais pensé pouvoir parvenir à un tel résultat, mais techniquement ça se développe d'une façon très rapide. Et moralement, c'est encore un petit peu plus sédentaire et un peu plus immobile, malheureusement. Voilà, c'est comme très souvent dans cette émission, je vous parle de ces sujets-là, ensuite en vous posant la question, est-ce qu'on doit poursuivre ou pas ces activités, ou en tout cas, comment les contrôler? Et pour l'instant, on n'a toujours aucune réponse, parce que chacun, quelque part, fait ce genre d'expérience dans son coin, malheureusement. Voilà. Deux articles liés donc au cerveau dans cette émission Biotine. Vous écoutez Biotine, l'émission de science qui vous fait réfléchir tous les samedis. Ça fait du bien, entre 12h et 13h. On écoute un peu de musique également pour essayer de faire passer la pilule. Et on se retrouve juste après, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. On écoute Freeze, c'est un Strasbourgeois sur l'antenne, à tout de suite.
I hate fighting, I like writing, I find it quite exciting, but often do it in a windowless room with bad lighting, a storm in my brain, gray matter and lightning, sometimes I black out, I find the sight of a white page frightening, liken it to the igniting of forest fires, see signals leak through porous wires, spy stories, been observatory since the conservatory, the mic sound not Tyson, but P's never gone, need the spike, Fox, Palm, Prince, and Fruquan, cause at night I see the cavalry of the galaxy, sets to my mind and the fallacy of reality. Well, in actuality, I just wrote to the beat. Now my sheet's not neat, but the cycle's complete. Tap feet with the click, clap, kick, and the hi-hat.
Everybody sounds the same.
All these cats in the game, rapping tracks with no themes.
Everybody sounds the same.
May not claim acclaim, but got mad self-esteem.
Everybody sounds the same.
Never write no insight in sight. The same rhyme scheme.
Everybody sounds the same.
If this shit sounds different than the main difference, most cats can't put aside their belligerence. Excuse me if I can't hide my indifference. I find that shit ridiculous. I like my shit meticulous with other layers for thickness. Who gives a shit who the quickest is? I do not give a fuck if you rock quick. You suck dick when you pop shit. It's obnoxious and noxious. What I'm saying is that it states something terrible. Can't be in the room while it's playing because I find it unbearable. I can't take it just like you can't fake it. I'ma go ahead and buy your record just so I could break it.
Everybody sounds the same.
All these cats in the game, rapping tracks with no themes.
Everybody sounds the same.
May not claim acclaim, but got mad self-esteem.
Everybody sounds the same.
Never write no insight in sight. The same rhyme scheme.
Everybody sounds the same.
And I be naked, speaking archaic, with razor blades in front of a congregation. Like, who wants to get saved? Watch them all panic. My reality's augmented. Casualties authentic, gluten free against the grain. Tracks murdered in an offbeat fashion. I'm cut from a passion. The fabric, my genes authentic. Pops did it. Reaper seeds on classic records. Alcohol and rock glasses. This why I talk spastic. Monotonous car spitters. Can't ride with them. Calling shotgun, man. You cats car sick with it. Your mission is backwards. You copycat felines lining up.
up, you wish to split off balance. You're not a challenge, our first contact is first contact. When I hear you all rap, I hear you all rap. Fall back, keep the promise, almanac. It never rain here, black now, while we're on task.
Everybody sounds the same.
All these cats in the game, rapping tracks with no themes.
Everybody sounds the same.
May not claim acclaim, but got mad self-esteem.
Everybody sounds the same.
Never write no insight, incite the same rhyme scheme.
Everybody sounds the same.
May not claim acclaim, but got mad self-esteem.
Same, c'était Freeze sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. C'est une actualité un peu anxiogène aujourd'hui que je vous propose. Et puis comme je suis lancé, ben je vais continuer avec... on va parler de mort, hein, tant qu'à faire. Écoutez, on est lancé, en tout cas de maladies cardiovasculaires. On en a déjà parlé, on continue. Ces maladies cardiovasculaires qui demeurent la principale cause de mortalité dans le monde chez les adultes d'âge moyen. Mais le cancer devient la principale cause de décès dans les pays riches. Selon deux enquêtes qui ont été publiées il y a quelques jours, il est même probable que le cancer deviendra la cause la plus courante de décès dans le monde dans quelques décennies, selon les chercheurs. Sur les à peu près 55 millions de décès enregistrés en 2017 dans le monde, les maladies cardiaques représentent plus de 40% de décès. Et les chercheurs, les scientifiques qui ont travaillé dont leurs travaux ont été présentés au congrès de la Société européenne de cardiologie à Paris il y a quelques jours. Ces chercheurs pointent le lourd tribut payé par les pays pauvres à ces pathologies. Le cancer, qui est la deuxième cause de décès la plus fréquente dans le monde, représente un peu plus du quart de tous les décès. Mais donc, ce que je vous disais, c'est qu'on se rend compte que dans les pays riches, le cancer tue maintenant 2 fois 5 plus de gens que les maladies cardiaques. D'après donc ces recherches qui ont été publiées dans la revue médicale The Lancet, qui est aussi une grande revue de formation scientifique et médicale. À titre de comparaison, les maladies cardiovasculaires étaient responsables de 3 fois plus de décès que le cancer dans les pays à faible revenu. Le monde assiste à une nouvelle transition épidémiologique, les maladies cardiovasculaires n'étant plus la principale cause de décès dans les pays à revenus élevés. C'est Gilles Denaguet, professeur à l'université Laval au Québec, qui a notamment participé à ces deux travaux de recherche, qui s'exprime. Mais à mesure que les taux de maladies cardiaques diminuent à l'échelle mondiale, le cancer pourrait devenir la principale cause de décès dans le monde d'ici quelques décennies seulement, c'est ce qu'il annonce. En fait, l'étude porte précisément sur plus de 160 000 adultes âgés de 35 à 70 ans qu'on a suivis sur une décennie, c'est-à-dire entre 2005 et 2016, et principalement dans des pays qu'on appelle à revenus élevés, mais aussi dans des pays à revenus moyens et dans des pays à revenus faibles. Hein, c'est un petit peu la nouvelle terminologie maintenant pour parler des pays pauvres, on va parler de pays à revenus faibles. Et donc, d'après ces travaux de recherche, les personnes des pays pauvres sont en moyenne 2,5 fois plus susceptible de mourir d'une maladie cardiaque par rapport à ceux des pays riches. Mais dans les pays riches, on va plutôt mourir de cancer. C'est une constatation pour l'instant qui a été publiée d'un point de vue purement statistique, on va dire. Mais on n'en sait pas véritablement la cause. On considère que la baisse des maladies cardiovasculaires sont liées à une meilleure prise en charge quelque part, ou une meilleure prise de conscience de tout ce qui est malbouffe, activité physique, manger 5 fruits et légumes par jour et ainsi de suite, qui pourrait donc avoir une action bénéfique sur les maladies cardiovasculaires. Mais à contrario, au niveau du cancer, on n'a pas précisément d'informations, en tout cas d'explications. C'est une constatation qui a été relayée notamment par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et on suivra de près, en tout cas c'est ce qu'assure l'OMS, l'évolution de ces constatations. Mais voilà, on nous dit que le cancer est devenu la principale cause de décès dans les pays riches. Voilà, bah j'ai bien plombé l'ambiance, je suis très content. Alors pour finir, ah, on va essayer un petit peu de se soulager, parce que c'est un peu lourd de parler de tous ces sujets graves, mais bon, c'est aussi l'actualité scientifique, et là, principalement, plutôt l'actualité médicale. Donc on va finir toujours au niveau médical, mais un petit peu plus léger. On a tous, bien sûr, dû courir après un bus, un métro, je ne sais quoi. On s'est tous retrouvés dans un bureau, dans une salle qui était surchauffée avec plein de monde. On a tous fait une balade en plein soleil, il faisait lourd, il faisait chaud. Et notre transpiration devenait de plus en plus gênante d'un point de vue odorante sans qu'on en ait principalement conscience. Eh bien, cette angoisse existentielle, c'est le fabricant Unilever qui est propriétaire notamment de marques de deodorants AXA, Rexona, ainsi de suite. Donc c'est quand même derrière toujours un aspect un petit peu commercial évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Mais en tout cas, cette angoisse existentielle, ce fabricant a voulu y travailler dessus et donc a financé un projet de recherche pour essayer de développer un espèce de patch qu'on colle sur la peau et qui pourrait avertir en cas en fait de production d'odeur un peu désagréable. Ce patch serait relié à une application smartphone. Le smartphone envoie une alerte qui suggère que ça serait peut-être bon de pouvoir se rafraîchir les aisselles. Ce projet, en fait, Unilever s'est allié avec un fabricant de puces qui a développé le circuit intelligent, une autre société pour les circuits flexibles, un autre fabricant de systèmes de transmission sans fil, et aussi une université, notamment l'université de Manchester. En fait, l'université, elle a travaillé sur le cocktail de substances chimiques qui peuvent donner des odeurs corporelles désagréables. Ça doit être sympa de travailler dans ce labo. Mon Dieu, n'allons pas y faire un stage. En tout cas, les capteurs sont fabriqués à partir de semi-conducteurs organiques, modifiés chimiquement pour réagir à différents signaux gazeux. Lorsque ces substances viennent se fixer au semi-conducteur, ils vont modifier l'état du transistor, ils vont changer les caractéristiques du dispositif. Et donc, ce patch possède 8 types de capteurs, chacun étant sensible à une classe de composés chimiques particuliers. Il n'y a pas de substance responsable à elle seule de la mauvaise odeur, il y a une combinaison spécifique qui va permettre de déterminer si cette transpiration est malodorante ou pas. Une recette top secret, rien n'a été dit, en tout cas rien n'a été révélé par ce laboratoire de l'université de Manchester. Et là où intervient un petit peu la performance du dispositif, c'est qu'il faut essayer d'analyser un cocktail chimique caractéristique d'une mauvaise odeur. En fait, c'est beaucoup plus compliqué pour une intelligence artificielle qu'un exercice tout simple de reconnaître un chien sur une photo. L'intelligence artificielle, elle sait reconnaître un chien sur une photo. Par contre, reconnaître une mauvaise odeur par rapport à une autre, à partir de l'analyse des différents composants chimiques qui constituent cette odeur, c'est pas simple. Et donc, il a fallu essayer de faire apprendre à cette intelligence artificielle à repérer les mauvaises odeurs pour que le dispositif soit totalement performant. Alors attention, l'idée d'un détecteur d'odeur corporelle, c'est pas vraiment nouveau. Il y a des chercheurs japonais, tiens, on s'en serait pas douté, qui ont déjà conçu des capteurs portables qui étaient capables de reconnaître certaines odeurs et qui étaient reliées avec une application smartphone. Et ça permettait d'avoir quelque chose d'assez performant, mais sans plus, nous dit-on. Il faut compter à peu près une bonne centaine d'euros pour avoir ces gadgets qu'on va se coller sur la peau pour savoir si on sent bon ou pas. Hein. C'est-à-dire que, franchement, on a peut-être de l'argent à mettre ailleurs, mais en tout cas, d'un point de vue technique, c'est assez intéressant et d'avoir cette vraie prouesse technologique de pouvoir essayer d'analyser un cocktail de substances chimiques pour ensuite avoir une efficacité dans ce dispositif. Alors, on n'est quand même pas idiot et on sait très bien que si Unilever a financé ce genre de projet de recherche, c'est bien sûr par la suite pour vendre sûrement, je suppose, à mon avis, des déodorants ou d'autres savons. Allez savoir, je ne sais pas. Peut-être que j'ai... Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je pense qu'il y a sûrement derrière certaines décisions peu avouable, allez savoir. Allez, c'était Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h. L'émission d'actualité scientifique que vous propose Graphite sur graphite.net et sur la bande FM 94.9, bien sûr. très médical aujourd'hui et assez anxiogène. On essaiera d'être un petit peu plus léger, de partir dans l'espace la semaine prochaine. On retrouvera aussi Anne Fleur pour sa chronique sur les inventions du monde. Et je vous rappelle les deux rendez-vous. Samedi 12 octobre, Fête de la Science à 14h en direct de l'Université de Technologie de Compiègne. Et dimanche 20 octobre, la 8e bourse aux disques et aux bandes dessinées organisée par Graphite. C'est au Centre de Rencontre de la Victoire à Compiègne, dimanche 20 octobre. 9h-18h. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. D'ici là, bien sûr, vous continuez à être fidèles à l'ensemble de nos émissions. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.